Bonjour, comme un bruit qui court sur France Inter, pour une heure de reportage dans tous les sons et dans tous les sens.
Cette semaine, comme un bruit de chaos en Libye, pourquoi est-il parti faire le djihad et dégoogolisons Internet?
Comme un bruit qui court, en direct du studio 611 à la Maison de la Radio, l'émission qui bidouille le son et chatouille le sens.
Il a le comportement typique d'un jeune combattant de l'État islamique sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, il va poster cette photo. Et qu'est-ce qu'il y a comme phrase dessus? Le croyant ne trouve le repos que lorsqu'il rencontre Allah.
Le problème, c'est le côté hégémonique, voire, si j'ose le terme, impérialiste, qu'il peut y avoir derrière ces entreprises.
Parce qu'ils ont beaucoup d'armes, beaucoup de Kalachnikov et beaucoup de colère.
Comme un bruit qui court, les oreilles sur tous les fronts. Guive est parti aux portes de la Libye rencontrer les combattants d'une guerre civile qui plonge chaque jour davantage ce pays dans un scénario à la somalienne. Le front auquel s'est intéressé Anaël est encore plus proche de nous, avec les jeunes candidats au djihad en partance pour la Syrie. Mais ne vous inquiétez pas, Google veille sur nous, sur vous. Et bientôt, grâce à vos Google Glass, lunettes en français, les choses seront plus claires.
Antoine Chao.
Anaël Verso.
Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Comme un bruit de chaos en Libye. Nous avons suivi la semaine dernière comment la Tunisie s'engage doucement, vaille que vaille, dans la transition démocratique avec ses premières élections. Mais tout à côté, la Libye, elle, s'enfonce chaque jour un peu plus dans la guerre civile. 3 ans seulement après la proclamation officielle de la libération du pays, avec l'aide des troupes françaises et britanniques, depuis, les chancelleries occidentales ont fui le pays et la Libye est livrée aux affrontements entre factions rivales en lutte pour le pouvoir. Les uns disent vouloir lutter contre les islamistes, les autres affirment combattre les anciens kadhafistes. Et c'est bien sûr plus compliqué que ça. Mais en attendant un improbable cessez-le-feu réclamé par l'ONU, ce sont des dizaines de personnes qui meurent chaque semaine. Et chaque jour de combat apporte son lot de blessés. Juste à côté, dans les hôpitaux tunisiens, c'est dans ces cliniques où sont soignés les combattants, indistinctement pro et anti, qu'on va, avec la tentation de jouer les prolongations, au point de reproduire le conflit, c'est là où on va se retrouver, entre perfusion et béquilles, avec des infirmières au milieu obligées de jouer les casques bleus.
Dans cette clinique de la capitale tunisienne, les blessés libyens, combattants ou civils, ont afflué tout l'été suite aux violents affrontements à Tripoli.
En Libye, 38 personnes, des soldats pour la plupart, ont été tués ces dernières 24 heures à Benghazi, c'est à l'est du pays.
Ce qui se passe depuis 4 ans, ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé pour notre pays.
Plusieurs milices rivales qui avaient combattu le régime de Kadhafi cherchent aujourd'hui à contrôler les villes de Misrata et Benghazi.
Pourtant, la Libye a de quoi devenir un des meilleurs pays au monde.
Après s'être affrontés tout l'été, les combattants se retrouvent en Tunisie.
C'est un jeune homme avec une petite barbe et les yeux très bleus qui est là. Oh là, oui, là, c'est bien gonflé. Là.
C'est la même chose, c'est une plaie par balle.
Plaie par balle.
Qui a été opérée pour une greffe nerveuse aussi.
Ahmed Chaouch, 22 ans, Zawili.
Ahmed Chaouch, 22 ans, je viens de Zawiya de Libye.
Et alors, vous, comment vous vous retrouvez ici, là, dans cette lit d'hôpital, avec la jambe toute enveloppée, ici en Tunisie?
Ça, c'est un éclat d'obus. Nous, on était sur le front, debout à côté d'un tank, et ça a été attaqué. Il y a eu un obus, et voilà, moi j'ai été blessée. Et les gens qui étaient avec moi, ils sont morts sur place. Au début, donc, moi, je participais à la révolution avec les manifestations pacifiques, mais comme vous savez, ils ont tiré sur les manifestants, donc très spontanément, on a pris les armes.
Mais est-ce que vous savez que vos adversaires, ceux contre qui vous vous battez, ils sont aussi dans cet hôpital et dans les hôpitaux de Tunis? Il y a les uns et les autres.
Oui, je suis au courant de ça.
Et si vous en voyez, qu'est-ce qui se passe?
Il ne se passera rien, je dirai bonjour et c'est tout. Au final, on est des Libyens, on ne va pas s'entretuer comme ça dans un pays étranger, ce n'est pas la même situation.
Voilà, les Libyens sont des gens qui ne se tuent entre eux que chez eux.
Maintenant, moi, je suis blessé malade et lui aussi, il est blessé malade, ça ne veut rien dire d'aller s'entretuer.
Vous êtes la surveillante générale?
Je suis la surveillante générale de la clinique.
Qu'est-ce qui se passe avec les Libyens? Depuis la Révolution, beaucoup de Libyens sont venus s'installer en Tunisie, les uns fuyant la Révolution, les autres fuyant la guerre. Et vous, vous recevez des blessés régulièrement?
Oui, on reçoit beaucoup de Libyens, des combattants blessés par balles, traumatisme crânien, des fractures dans tout le corps.
La pathologie de guerre, quoi, médecine de guerre.
Des amputés aussi, amputés de membres inférieurs, supérieurs, plaies par balles. Et jusqu'aujourd'hui, le week-end, j'ai 4-5 patients qui sont blessés. C'est une partie qui est un peu... C'est l'ambassade libyenne, je peux répondre.
Allez-y, oui, c'est l'ambassade de Libye qui appelle.
Oui. Allô? Oui, Aslam, c'est Ahmed. Oui, c'est Ahmed. Oui. Oui, Abu Dhraï. D'accord, Chando. Inch'Allah.
Et là, ils vous envoient des nouveaux blessés, là?
Oui.
Il y en a combien qui arrivent, là?
Deux. Oui, par balle. Parce qu'ils ont beaucoup d'armes, beaucoup de Kalachnikov et beaucoup de colère.
Alors, on est dans les couloirs de l'hôpital. Clinique top select et top moderne. On rentre dans les salles. Oui, d'accord. C'est là. Voyez cette odeur toujours très prenante d'hôpital qui prend les narines. Et on voit des gars estropiés.
Marhaba. Oussama Faraj Abdelhadi, mouled 82.
Houssem, né en 82, c'est des forces spéciales, avec l'armée libyenne.
Ah ouais, là, il monte sa plaie, plein milieu de la cuisse.
La clinique était vraiment débordée, c'était le matin de l'Aïd, il n'y avait plus d'anesthésie, donc il m'a nettoyé la plaie, elle était plus grande que ça, en plaie sans anesthésie, ils étaient complètement débordés.
Si on voulait expliquer en quelques mots, qui combat contre qui en Libye à quelqu'un qui n'y connaît rien?
Si je vais te montrer.
Parce qu'il a son téléphone portable à côté de la main, là, son smartphone. C'est quoi ces photos qui montrent? C'est des photos d'armes, des photos de gens blessés.
Ça, c'est mes forces spéciales, Asaïka, qui veut dire tonnerre. Notre sigle là, c'est.
Un aigle qu'on voit, et là on voit un gars qui pose avec un gilet pare-balles et une cagoule et qui fait le point de la victoire. Et c'est marrant parce que voilà, il nous montre sur son smartphone les pages Facebook avec des gens arrêtés, des gens battus, des corps, des bombes, des plans, des petits journaux de guerre. Et.
Là, c'est l'armée qui a attrapé un combattant à Tripoli, donc. C'est un des combattants de l'aube de Libye. C'est eux qui ont détruit l'aéroport.
Et est-ce que vous savez, Hussein, que dans cet hôpital, et comme dans d'autres hôpitaux à Tunis, il y a vos adversaires qui se font soigner aussi? C'est que les gens qui se font blesser d'un côté et de l'autre de cette sale guerre se retrouvent ici, en Tunisie.
Oui, je sais, oui. Je ne les vois pas, je m'en fous.
Mais
Ici, je ne le regarde pas, je suis indifférent. Mais si je le vois en Libye, je lui tire dessus.
Ah
oui, comme ça. Et en disant ça, il continue à montrer les photos sur son téléphone comme si de rien n'était.
Merci.
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 Beaucoup.
Il y a des règlements de compte inter-libyens. Souvent, ils sont adversaires. Et donc, j'essaie de séparer. Donc,
c'est-à-dire les pro-Kadhafi et les pro-révolutionnaires.
Oui, c'est ça. On a eu des accrochages. On a eu quelques agressions de certains patients.
Il y avait des cris, il y avait de la bagarre. C'était comment?
Oui, même ils ont des agressions avec des bouteilles. Donc, il y a toujours des bagarres, des... Règlement de compte, voilà.
Bonjour, on vous croise là dans le couloir avec vos deux béquilles. Et vous, vous faites partie des Libyens qui n'êtes pas vraiment du côté de ceux avec qui on a parlé jusqu'à maintenant.
Moi, je suis du groupe des Kadhafi.
C'est ça.
C'est ça.
Et ici, il y a beaucoup de anti-Kadhafistes, si j'ai bien compris.
Ça, c'est de l'ignorance et ils sont en train de le payer maintenant.
Mais dites-moi, vous n'avez pas peur ici, maintenant, avec vos deux béquilles, là, croiser des adversaires anti-Kadhafistes dans cet hôpital? Parce que vous ne pouvez pas courir bien loin avec vos béquilles.
Si tu fais rien, il ne t'arrive rien.
Donc vous n'avez pas de conversation politique avec eux, quoi. Vous rasez les murs et vous faites profil bas.
Et nous espérons que l'armée des tribus sera celle qui va libérer la Libye.
Tous les Libyens qui ont fui et qui sont ici en Tunisie suivent heure par heure ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en Libye.
Bien sûr, la Libye nous importe et la paix en Libye nous importe encore plus. Bien, j'espère que d'ici à ce que je guérisse, quand je retourne, je trouve que c'est déjà la paix.
Inch'Allah.
Une guerre civile, c'est pas une guerre d'un pouvoir légitime contre des terroristes ou des islamistes, c'est une guerre civile. Donc en fait, si les combats se poursuivent, aucune partie n'a la possibilité de gagner. Qu'est-ce qui reste? Un scénario à la somalienne, avec des combats, des pics de violence, une absence d'État, la possibilité pour des groupes extrémistes d'exporter des armes et des hommes armés dans les pays environnants, et donc un scénario à la somalienne, grosso modo à une heure d'avion de la France.
C'était une petite accroche pour vous donner envie d'aller écouter en ligne sur le site de France Inter, émission Comme un bruit qui court, Patrick Mzadé, ce très grand connaisseur de la Libye qui nous a accordé un entretien que vous pouvez retrouver si vous voulez prolonger.
Comme un bruit qui court.
Il est parti quand? Vous vous rappelez du jour? Il est parti un jeudi matin pour aller au cours et il n'est pas revenu. 6 heures du soir, il aurait dû rentrer, il tardait, on a commencé à s'inquiéter. Et quelques jours avant son départ en avion, on était encore dans les bras l'un de l'autre. Maman, un câlin et puis voilà le gros câlin.
Moi, je suis parti vraiment naïvement, avec beaucoup d'ignorance, sans mauvaise intention, parce que moi, j'avais jamais l'intention de participer à un projet criminel. Ça m'a même pas traversé l'esprit.
C'est un enfant, s'il n'y avait pas ce problème, il peut servir de modèle.
Il n'y a pas besoin d'être foncièrement mauvais. hein, ou d'être radicalisé dès le départ pour se retrouver sur un champ de bataille. Je pense que c'est important de comprendre ça.
En Libye, comme en Égypte et en Syrie, on est loin de l'élan révolutionnaire des printemps de 2011. En Syrie, c'est la guerre entre pro et anti-Bachar. Et parmi les anti-Bachar, al-Assad, il y a des djihadistes qui se battent pour l'État islamique. Selon l'ONU, depuis le début du conflit, 15 000 djihadistes issus de plus de 80 pays sont venus combattre en Irak et en Syrie. Et parmi ces djihadistes, il y a des Français. Il serait environ 700 en Syrie. Beaucoup, pas beaucoup. En tout cas, ces départs préoccupent beaucoup les politiques, qui s'inquiètent en fait surtout du retour de ces jeunes. Mercredi 29 octobre, l'Assemblée nationale a ainsi approuvé une nouvelle loi antiterroriste qui prévoit notamment une interdiction de sortie du territoire pour freiner les candidats au djihad. Loin de fantasmer sur une internationale djihadiste, on s'est intéressé à comprendre qui sont les jeunes qui partent et quelles sont les raisons de leur départ. Avant tout, ce sont des raisons sociales. Les jeunes qui partent sont majoritairement des jeunes hommes issus des quartiers populaires délaissés par les politiques publiques. Mais pas seulement, il y a aussi des fils de famille et également de très jeunes femmes de classe moyenne et supérieure. Nous, on reste en France, donc, avec des mères de jeunes sur le départ ou déjà partis en Syrie et qui pourtant ne sont pas des monstres.
Oh mes frères de France, le djihad en Syrie, il est obligatoire.
Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Allahu Akbar!
C'est bon, hein?
Ah ouais. Oui!
Merci!
C'est là qu'on est?
Là?
Sinon, là, comme vous voulez.
Au soleil?
Ouais, au soleil.
Et... J'ai une peau de blonde.
Le calvaire!
C'est une vraie blonde, vous, en plus. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui.
Voilà, on est en terrasse, dans un café à Bobigny, près de la préfecture de Bobigny. Et vous vous retrouvez toutes les deux, Sonia et Marianne. On va vous appeler Marianne,
c'est
hein?
Super! Ça me va très bien, hein. C'est le nom de la République que je lui dis.
Et Marianne, je vois que vous êtes très bien habillée. Vous avez un beau costume bleu. Hein.
Ah oui, j'aime beaucoup les couleurs.
Vous êtes coquette?
Très, voilà. Je vais chez le coiffeur tous les 15 jours.
Votre fils, Marianne, s'appelle comment?
Salim.
Salim, c'est un pseudonyme. Hein. On
tout
lui
à
donne
fait.
Un pseudonyme. Mais vous, vous avez peur pour votre fils et c'est la raison pour laquelle vous avez fait appel à Sonia.
Obligé. Sans ça, si je n'intervenais pas, malheureusement, il est embrigadé pour aller faire ce qu'on appelle la guerre au djihad.
C'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, j'ai envie de faire le djihad.
Oui, parce que je pense que malheureusement, il est influençable. Et il y a des gens qui sont là pour ça, pour les enrôler. Et lui, bah, vu qu'il a un caractère très facile, très friable, il se laisse dominer. C'est comme ça.
Il a quel âge?
22 ans.
Il travaille ou pas?
Non. Non, non, parce que là, pour le moment, il est pris par la religion et il ne pense qu'à ça.
Mes frères de France, le djihad en Syrie, il est obligatoire.
Comment ça lui est venu, d'après vous?
Je pense que ça lui est venu dans un club de sport qu'il allait faire de la boxe thaï. C'est à partir de ce moment-là que je l'ai vu se radicaliser. Ça doit faire 3 ans. Et c'est petit à petit que ça a pris de l'ampleur. Ça serait rien que la religion, ça irait. Mais c'est musulman actif, actif pour tuer des gens. C'est ça qui est triste. Voilà, pour tuer des gens, je ne vois pas comment qu'on peut devenir, avoir une religion pour tuer les gens. Logiquement, ce n'est pas ça, la religion. Ce n'est pas ça du tout.
Alors Marianne, vous avez adopté cet enfant?
Oui, tout à fait. Il avait 4 mois à l'époque.
Vous avez d'autres enfants?
Oui, bien sûr, j'ai des grands-enfants. J'ai un fils qui a 57 ans, une fille qui a 56, une petite fille, des petits-enfants. C'est pas les enfants qui me manquent. C'était pour lui éviter d'aller à la DAS, à cet enfant-là. Si j'en ai sauvé un, c'est toujours un.
Marianne, mais vous dites que vous avez des enfants de 56, 57
oui,
ans.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Et vous avez quel âge ?
73.
Et vous travaillez ?
Je travaille toujours dans le commerce. Oui, oui. Ça va, comme ça, je peux vivre. Et puis faire vivre un petit peu mon entourage.
Mais alors, d'après vous, qu'est-ce qui explique qu'il s'est radicalisé ?
Fréquentation. C'est des fréquentations.
Mais il est allé en prison plusieurs fois ?
Une fois. Il avait bu pas mal et puis il a eu un petit problème avec sa petite fiancée. Puis ça a vraiment mal tourné, ils ont appelé la police et puis ils l'ont incarcéré. Dans cet endroit-là, c'est des gens qui sont en état de faiblesse et c'est facile, je pense, à les emmener vers une religion. C'est beaucoup plus facile. Ils avaient déjà commencé à lui prendre la tête. Voilà, et maintenant, après là qu'il a fait, il a été incarcéré, ils ont fini de faire le travail.
Les petites jeunes comme ça.
Est-ce qu'il a fait des études ? Il s'est arrêté où dans les études ?
Non, il est simplement en troisième. Non, il n'a pas fait d'études. Non. Il a travaillé un peu, il était chauffeur-livreur, il a fait, il a travaillé dans les restaurants, il faisait serveur, voilà.
Mais il a arrêté.
C'est-à-dire que c'est pas facile de trouver un emploi quand on n'a aucun métier.
Du coup, qu'est-ce qu'il fait de ses journées ?
Eh bien, justement, je me le demande parce que moi, je travaille, alors je ne peux pas le surveiller toute la journée. Voilà. Ben, je pense qu'il doit aller retrouver des copains exactement dans son même genre que lui. Hein. Voilà.
Il habite chez vous ?
Ah ben oui, bien sûr. Hein. Oui, oui. Surtout pas le mettre dehors, surtout pas. Surtout pas. Je suis son dernier point de repère. Il sait qu'à la maison, il aura toujours un toit. Il aura toujours un lit pour dormir. Il a toutes ses affaires, sa chambre et tout. J'espère que c'est ça qui va toujours le tenir accroché. Toujours.
Mais qu'est-ce qui vous fait penser, Marianne, que votre fils veut aller en Syrie ?
Mais parce qu'il l'a dit, tout simplement. C'est des choses qu'on ne peut pas inventer, ça.
Il vous l'a dit à vous ?
Non, il ne me l'a pas dit à moi. Il l'a dit à quelqu'un qui est très proche de moi, mais il ne me l'a pas dit à moi.
Il n'a pas voulu vous faire peur ?
Exactement. Tout ce qu'il fait avec moi, il me tranquillise, il me dit ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis. C'est toujours très, très gentil. Avec moi, il est très gentil. Ce n'est pas un méchant garçon. Il est respectueux, il est... Je ne peux pas dire, c'est un enfant, s'il n'y avait pas ce problème, qui peut servir de modèle. Voilà.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au début, quelques jeunes disparaissent.
Au revoir.
Des départs qui vont ensuite se renouveler et prendre une ampleur sans précédent.
Parmi eux, une douzaine seraient mineurs. Et il n'y a pas que des Français, mais des Anglais, des Allemands, des Belges.
Il serait 12 à 13 000 combattants étrangers en Syrie, dont 1 000 à 1500 Européens.
Au cours des 6 derniers mois, le nombre de combattants présents sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie a considérablement augmenté.
Une estimation, reconnaît le ministère de l'Intérieur, une estimation loin du compte.
On est passé de 234 ressortissants à plus de 350.
Loin du compte.
Ils s'appellent Nora, Malik, Abdel ou Romain, Kevin, Nicolas et ont changé leur nom en Abou Saïd ou Salahoudine. Ils ont entre 15 et 35 ans. Ils viennent de Toulouse, de Strasbourg, de la région parisienne. Ils sont tous français. Ils sont partis faire le djihad.
Le djihad en Syrie, il est obligatoire.
Alors, on est avec David Thompson, qui est journaliste à RFI. On s'est installé dans un bistrot à Paris. Et on est là devant votre iPhone, David. Et on va essayer de retrouver, de comprendre comment est-ce que les futurs djihadistes ou les djihadistes se retrouvent. Et c'est essentiellement sur Internet que ça se passe ?
C'est essentiellement sur Internet. Là, par exemple, je suis en train de discuter avec un jeune Français qui est en Syrie. Il a entendu parler de cette histoire du barrage de Sivens. Un jeune qui est mort Et il me demande un peu qu'est-ce qui se passe. Alors je lui explique, je lui dis que voilà, que ce jeune a été tué par la police française.
Là, on a donc une photo de profil. C'est quoi cette
photo
de profil ?
Alors là, la photo de profil qu'il a utilisée, ce jeune, c'est la photo de profil de cet Américain qui a attaqué à la hachette il y a quelques jours des policiers dans la rue à New York. Parfois, ils mettent des photos d'eux au combat.
Voilà, on a tapé un Abou quelque chose.
Voilà. Lui, par exemple. En plus, c'est un Français qui était originaire de...
Ah bon ?
Ouais, c'est un Français.
Il est d'où, lui ?
Genre, il vient de Roubaix. Il a le comportement typique d'un jeune combattant de l'État islamique sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, il va poster cette photo avec écrit... donc là, on voit un djihadiste de l'État islamique en train de se reposer. Et qu'est-ce qu'il y a comme phrase dessus ? Le croyant ne trouve le repos que lorsqu'il rencontre Allah. Bon, voilà, en gros, c'est l'éloge du martyr, du sacrifice de sa vie pour le djihad. Voilà, alors là... Ah. Voilà, non. Le commentaire de la photo, c'est « La baraka est au Sham, Subhan Allah ». Bon, on passe les fautes d'orthographe. Ça veut dire qu'en gros, la félicité est sur la terre du califat en Syrie. Gloire à Dieu. Et donc, la photo, c'est quoi ? C'est des piles de plaquettes de chocolat Milka pour montrer que, voilà, regardez tout ce qu'on a en Syrie. Voilà ce qu'on obtient quand on émigre en Syrie. Alors lui, c'est un Français qui a mis une photo de lui avec son petit bébé parce qu'il est parti en Syrie avec ses enfants. Oui. C'est un Français. Donc,
et lui, vous le connaissez, par exemple ?
Oui, on se connaît, on se connaît.
Il n'est pas très barbu, hein ?
Il
a une petite barbe.
Barbe naissante. Ouais. Il est plutôt...
plutôt beau, hein.
Plutôt beau gosse.
Ouais.
Ouais. Et en fait, vraiment ça, de voir un jeune de 19-20 ans poser avec sa Kalachnikov, alors qu'une semaine avant, il était encore... j'exagère, mais un mois avant, il était encore au quartier ou quoi. Ça a un effet fascinant sur beaucoup de jeunes. Et donc, d'eux-mêmes, ils vont essayer de contacter des gens qui sont là-bas, pour essayer de les rejoindre. Souvent, c'est ça. Après, le travail des recruteurs, il est à moitié fait. Parce qu'on a des gens qui sont déjà motivés, qui ont déjà envie de partir. C'est pour ça que moi, j'utilise plutôt le terme de facilitateur. C'est que derrière l'ordinateur, on va avoir des gens qui vont expliquer tout simplement, bah écoute, tu viens dans tel aéroport en Turquie, ensuite tu prends tel vol interne, tu viens à tel poste frontière, et puis de l'autre côté de la frontière, nous, on t'attendra, et puis ensuite, on te facilitera l'intégration dans le groupe. On t'a déjà trouvé un appartement pour ta famille, il n'y a pas de problème, et tout se passera bien.
Bonjour, je suis John Cantley. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Kobané. Depuis un mois maintenant, les soldats de l'État islamique assiègent cette importante ville kurde. Les médias occidentaux... Je ne vois aucun de leurs journalistes ici, ont récemment affirmé que les islamistes ont battu en retraite. Tout ce que je vois dans cette ville de Kobané, ce sont des mujahideens. Il n'y a pas de YPG, PKK ou de Peshmerga à l'intérieur. Juste un grand nombre de mujahideens de l'État islamique. Et ils ne sont absolument pas sur le point de partir.
Voilà, c'était un exemple de ce que diffusent les djihadistes de l'État islamique sur Internet. Et ça, c'était le 28 octobre dernier, dans une vidéo où on voit le photojournaliste John Cantley, qui est détenu en otage depuis novembre 2012 et qui fait la com de l'État islamique en présentant un faux journal télévisé. À Bruxelles et on est sur la place de la Monnaie. Il est 16h et on est avec Mourad Benchelali. Vous avez passé 2 ans et demi à Guantanamo.
Oui, c'est ça, 2 ans et demi. Je suis sorti de Guantanamo en juillet 2004. Et ensuite, on a été rapatrié en France, extradé en France et détenu dans les prisons françaises jusqu'en février 2006.
Avec Mourad, on va à la rencontre de familles, de jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie.
Moi, si je peux raconter mon histoire, la faire partager, raconter comment moi je me suis retrouvé dans une situation un peu similaire, en expliquant aussi ce qui m'est arrivé, parce que ça a eu des conséquences, et en montrant que justement ça peut avoir des conséquences, Je pense en effet que ça peut être utile et que ça peut aider justement, ou je l'espère, dissuader d'éventuels volontaires.
Ah, la voilà.
Voilà. Bonjour. Fatia, maman de Jean qui est partie en Syrie. Maintenant, ça fait un peu plus d'un an.
Fatia, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de votre enfant qui est parti?
Moi, je travaille comme cadre dans une grosse entreprise ici à Bruxelles. Et mon gamin a été entouré de l'affection des siens. C'était vraiment le bébé bisounours, l'enfant bisounours, je dirais, parce que c'est plus un bébé, maintenant il faut le reconnaître. C'est un gamin de 16-17 ans, très chaleureux, convivial, sociable. Et notamment, il s'est laissé, on va dire, entraîné par son bon cœur et son sens de la solidarité. Parce que tout a démarré par une action qu'il menait ici sur le terrain à Bruxelles, au niveau des sans-abri. Et autour de cette action sur le terrain, il y avait un personnage peu recommandable qui, entre-temps, a été arrêté par les autorités. Mais je dirais que c'était un peu tard parce qu'il y a des dizaines de jeunes qui sont tombés dans ce piège de l'humanitaire ici en Belgique et qui ont probablement été abordés par d'autres personnes nettement moins bien intentionnées qui ont dû leur tenir le discours. Mais enfin, l'action que vous menez là, ici sur le terrain, pourquoi ne pas aller la faire ailleurs? Et c'est ainsi que toi a commencé, s'est enchaîné.
Envoyé spécial.
Voici Jean-Louis Denis. Il se fait appeler Jean-Louis le Soumis, un Belge converti à l'islam. Il a 39 ans et se présente comme l'émir de Bruxelles, de Sharia for Belgium.
Ma bombe pour l'instant, c'est donner à manger aux pauvres, c'est aider mon prochain, c'est lui donner des vêtements, c'est lui... C'est quoi ma bombe là? Qu'est-ce que tu t'en fous de ton corps? Qu'il soit explosé en mille morceaux dans le chantier d'Allah, c'est bien. C'est pas ton corps qui compte. T'inquiète pas, Allah, il va le ressusciter, ton corps.
L'homme utilise donc bel et bien ses distributions de nourriture afin de convaincre ces jeunes gens. Et ça marche? L'un d'eux côtoie Jean-Louis depuis 7 mois et semble déjà sous son emprise.
Et vous, par rapport à cette question du djihad en Syrie, donc c'est quoi votre opinion par rapport à ça, votre avis?
C'est pas n'importe qui va là-bas déjà, il faut avoir un courage déjà pour aller là-bas. Et moi, les jeunes là, qui sont là-bas, je les respecte, c'est des bons.
Vous êtes prêt à partir?
Oui.
Prochainement?
Je dirais pas quand.
Il est parti un jeudi matin pour aller au cours et il n'est pas revenu. 6 heures du soir, il aurait dû rentrer, il tardait, on a commencé à s'inquiéter. Et vers 6h30, 7h, on a appris qu'il était à l'aéroport d'Atatürk, donc à Istanbul. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous interpelle profondément parce que mon fils a passé toute la nuit dans la zone internationale de l'aéroport. Et à la suite de cela, il est quand même resté sur le sol turc de vendredi jusqu'au samedi matin avant de m'envoyer un texto « Maman, on nous emmène vers la Syrie ». Et il était 4h du matin. Donc que ce soit l'État belge ici, le gouvernement turc, ont disposé de 72 heures, 72 heures pour parler français, pour mener une action de sauvetage. Et ça n'a pas été le cas.
Mais vous pensez qu'il est tombé dans les mains d'une filière djihadiste?
C'est difficile à dire, mais je dirais que c'est le scénario le plus probable. Parce que je ne vois pas, moi, mon gamin, organiser tout un itinéraire pour aller à l'aéroport, arriver à Istanbul, prendre la correspondance vers Hatay, c'est totalement impossible. Il faut être réaliste.
Vous avez eu des nouvelles?
De temps en temps, il me donne de ses nouvelles, ce qui me fait garder l'espoir qu'il est toujours en vie et qu'à un moment ou un autre, il pourra revenir par ici.
Il avait quel âge, votre fils, à ce moment-là?
16 ans.
Il vous a prévenu?
Absolument pas. Et je dois dire que je n'ai vu en tout cas aucun changement perceptible, ni dans son comportement, ni dans sa façon d'être ou de faire. Et quelques jours avant son départ en avion ici à Bruxelles, bah, on était encore dans les bras l'un de l'autre. Maman, un câlin, et puis voilà le gros câlin. J'aurais jamais pu imaginer qu'en fait, il est en train de réunir la force et le courage pour se détacher et partir avec un camarade de classe 3 ou 4 jours plus tard.
Ça fait combien de temps qu'il est parti ?
C'était avril de l'année dernière.
Quand je pars pour l'Afghanistan, on est en juin 2001, 3 mois avant le 11 septembre.
Qu'est-ce qui prend un jeune de 19 ans un matin, un jour, de dire « bon voilà, je vais quitter mon pays, ma famille, mes amis, pour partir à l'autre bout du monde, pays en guerre, en déchirement ?»
C'est une question de Fatia. Vous êtes la mère d'un jeune qui est parti en Syrie et vous posez une question donc à Mourad Benchelali. Alors Mourad ?
Moi j'ai un grand frère qui est pratiquant, beaucoup plus pratiquant, qui lui a été en Afghanistan. Il y a été dans les années 99-2000 et à son retour il me propose d'aller en Afghanistan. Et lui il m'explique que c'est une bonne chose, c'est un pays islamique, donc ça peut participer à ma culture, de la religion, puis ça me permettrait de me mettre un peu plus dans la religion parce que lui jugeait que je n'y étais pas assez. Et il assume faire une description un peu idyllique du pays. Alors moi, naïvement, et avec beaucoup d'inconscience évidemment, je pars pour l'Afghanistan.
Vous partez pour l'Afghanistan, comment vous prenez un billet d'avion, vous demandez des informations à d'autres personnes pour constituer l'itinéraire, vous aviez une cagnotte. Moi, mon gamin, il est parti sur ses propres deniers, hein, quelques semaines avant le grand départ. Il a vendu sa PlayStation, ce que nous, dans la famille, on a perçu comme quelque chose d'extrêmement positif, parce qu'on se disait, ouf, il arrête d'être accro aux jeux vidéo, et c'est une bonne chose, il va se focaliser sur ses études. Il a vendu des tas de choses à lui, à la maison, pour se constituer une cagnotte et pour pouvoir payer son billet d'avion. Et même là-bas, il continue régulièrement à nous demander de lui envoyer des petits sous pour continuer à vivre, parce que ce n'est pas évident.
En ce qui me concerne, moi, c'est mon frère qui s'est occupé de tout. C'est lui qui s'est occupé de tout. Il m'a dit, voilà, tu vas à Londres, tu vas rencontrer telle personne et telle personne va s'occuper de toi. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'étais à Londres, j'ai rencontré un tel qui m'a accueilli, qui m'a hébergé chez lui et qui m'a mis dans un avion pour le Pakistan.
Mais votre grand frère, lui, comment sait-il qu'il est parti en Afghanistan ?
Mon frère, le jour de son procès, il a dit « le djihad, c'est ma vie, je ne le nie pas ». Donc mon frère, lui, se revendique djihadiste. Il l'assume. Moi, je suis parti vraiment naïvement, avec beaucoup d'ignorance, sans mauvaise intention, parce que moi, j'avais jamais l'intention de participer à un projet criminel. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Il n'y a pas besoin d'être foncièrement mauvais, hein, ou d'être radicalisé dès le départ pour se retrouver sur un champ de bataille. Je pense que c'est important de comprendre ça. On peut partir vraiment avec une bonne intention, très naïve, utopique, fausse. Des jeunes qui viennent de tous les pays et qui arrivent sur ces endroits de guerre, Il y a un effet groupe, il y a un embrigadement, il y a un tas de choses qui fait qu'évidemment, on vous dit aussi, ne rentre pas en France parce que maintenant que tu as mis les pieds ici, tu vas te retrouver en prison. Alors moi, j'avais à choisir entre le camp d'entraînement et la prison. Moi, je préfère faire de la prison en France que rester ici.
Justement, ça, c'est la réalité qui est véhiculée également en Belgique actuellement vis-à-vis de ces jeunes en Syrie. Mais la vérité, elle est totalement différente. Parce que la sûreté, les juges vous disent, écoutez, la vaste majorité de ces jeunes, de notre point de vue, il est clair qu'ils sont victimes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est retrouver les recruteurs, les gens en Belgique, ici sur le terrain, qui ont fait en sorte que ces jeunes sont partis.
Quand tu es parti, tu m'as dit, en France, tu me disais, l'objectif pour moi, c'est le martyr. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le même objectif ?
Toujours le même objectif.
Saïf Al-Kalam.
Toujours.
Djihadiste français en Syrie.
Sinon, je n'ai rien à faire ici.
Combattant du front Al-Nosra. Entretien réalisé par David Thompson, le 14 mars 2014.
Moi, pendant longtemps, j'ai été triste. Malgré que j'avais tout ce que souhaite n'importe quel immigré ou n'importe quelle personne qui vit au Maghreb et qui idéalise la France. Tout ce qu'eux, ils rêvaient, moi, je l'avais. Mais c'est pas ça qui fait le bonheur. C'est pas ça qui soulage ton cœur. Moi, je pleurais quand j'étais en France et que je regardais des vidéos des Moudjahidin qui ont lâché tout, leur famille, leurs biens, pour aller combattre. Ils ne combattent pas pour un salaire. Ils ne combattent pas pour les éloges. Ils combattent pour l'agrément de Dieu. Et ça, ça change toute la donne. Certes, il y a le manque de la famille, mais Inch'Allah, on se reverra tous au paradis. Je me dis que je suis en train d'accomplir mon devoir. Être venu au djihad avant toute chose, c'est une démarche pleine d'amour. Et non pas de rage ou de colère. Si on n'avait pas de l'amour dans notre cœur, on serait égoïste, on penserait qu'à notre confort personnel. Et dans ces cas-là, on serait resté en Europe.
الله اكبر الله اكبر انقلنا الشعب انه يستفهم ويقوم البرامج السياسية قبل ما صوته يأمم عم عمم وقفوا اللي عم بيسمم ويصمم عالتحريض السياسي ليضمم سيد الاقتراح حيكون علبة زجاجية فيها شفافية لتضل الأصوات هي لازمنا الديمقراطية لتبقى الآراء اللبنانية اللبنانية والحرب الطائفية صباح زيران يوم التعبير بحرية هيئة إشراف صوتك قلك أو قلك بس مش للبيع شغل عقلك ما تعمل شو ما قلك لك فيه وسمع
About the situation in check Vote like we chose to vote and not blindly I got my women, my youth, my children all behind me Saying every single vote counts, trust me The SEC police gon' be there to make sure things don't get fussy
صوت للوحدة الوطنية انت صوت ضد أي طائفية انت صوت ضد الألعاب السياسية انت صوت صوتك مثال للحرية انت
Alors, il faut vous dire que Salim, le fils de Marianne, qui a témoigné au tout début de notre reportage et dont on ne savait pas s'il partirait ou pas en Syrie, eh bien, on a appris une semaine après l'enregistrement que Salim est parti. Ça fait donc plus d'une semaine que Salim est parti. Je tiens à remercier pour ce reportage Marianne de Bobigny, Sonia Imloul, Fatia de Bruxelles, Mourad Benchelali, David Thompson et Pierre Engan. Et je vous conseille le livre de David Thompson, Les Français djihadistes, paru aux éditions des Arènes.
Oh, ma brique est courte.
Dégoogliser Internet. C'est la mission que se sont fixés les membres de l'association Framasoft qui milite pour un Internet libre. Google, figure de proue du capitalisme numérique, avec Apple, Facebook et Amazon, les GAFA, qui colonisent nos usages du net et centralisent dans leurs serveurs la plus grosse partie de l'activité de la toile. Un web qui se voulait pourtant au départ être tout le contraire, décentralisé et plus démocratique.
Nous sommes en 2014 après Jésus-Christ. Toute la toile est occupée par des services centralisés. Toutes ? Non. Une communauté peuplée d'irréductibles libristes résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons des camps retranchés de Fermetout, Centralizum, Espionum et Privatum.
Nous sommes Google.
Nous sommes là.
Nous sommes Google.
Eh, hey, fermez Google !
Alors, Alexis Kaufmann, vous êtes fondateur de Framasoft. Pourquoi est-ce qu'il faut se libérer de Google aujourd'hui ?
Alors, donc, on a lancé une campagne de dégooglisation, c'est pas facile à prononcer. Alors, moi, je suis prof de maths. L'informatique, à sa naissance, dans les années 50-60 aux États-Unis, le code informatique se partageait exactement comme les mathématiques au sein des universités américaines. Et puis, il y a des petits malins, entre guillemets, parce que ce sont devenus les Bill Gates et les Steve Jobs, etc., qui se sont dit, on va fermer le code et on va le commercialiser. Et certains ont résisté. C'est un peu comme la guerre des étoiles, hein, pour faire des références geeks. Certains se sont dit, on peut plus partager comme avant le code, on va résister. Et la résistance, elle s'est faite aussi bien d'un point de vue technique que juridique. C'est-à-dire qu'il a fallu déposer les bases juridiques de ce que c'est qu'un logiciel libre pour garantir ses libertés et pour le protéger. Et Microsoft était un petit peu le symbole de la fermeture dans nos ordinateurs personnels, dans nos ordinateurs domestiques. C'était du temps où, de temps en temps, on se connectait à Internet via notre modem. Sinon, on faisait du traitement de texte, puis voilà, un peu d'Internet, un peu de traitement d'image. Aujourd'hui, la donne a totalement changé. On est tout le temps sur Internet. Les applications se sont déportées sur Internet. Certains disent dans le cloud ou dans les nuages, mais c'est une expression tout à fait subjective et connotée. Non, non, elles sont sur d'autres serveurs. Ce qui fait que Google, aujourd'hui, représente... comme Microsoft, hier, représente un petit peu la symbolique du grand méchant... qu'il était bon par le passé de haïr Microsoft. C'était très facile, ils étaient arrogants, tout était complètement fermé, ils avaient une mauvaise image, ils n'avaient pas des beaux produits, ça plantait souvent, donc c'était assez simple de haïr Microsoft. Haïr Google, c'est beaucoup plus compliqué, parce que Google, ils aident le logiciel libre. Alors, ils n'appellent pas ça le logiciel libre, ils appellent ça plutôt de l'open source, c'est le fait que le code source soit ouvert, et donc ainsi sur une manière différente de faire de l'informatique, beaucoup plus facilement entendable par le monde de l'entreprise. Alors que le logiciel libre, c'est la liberté des utilisateurs, et là, c'est beaucoup plus subversif.
Au milieu des multinationales tentaculaires, quelques organisations non lucratives continuent de lutter activement pour un web ouvert et respectueux des internautes.
Votre annonce sur Google, dès aujourd'hui, assurez-vous une visibilité optimale auprès des internautes au moment précis où ils recherchent sur Google les produits et services que vous proposez.
Alors nous voilà de retour pour cette première journée de l'Open World Forum 2014. On accueille tout de suite Pierre-Yves Gosset, délégué général de l'association Framasoft.
Donc je me présente, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis délégué général de l'association qui s'appelle Framasoft, dont l'objet est de promouvoir la culture libre en général et le logiciel libre en particulier. Et je vais essentiellement vous parler justement de décentralisation dans ce petit talk que j'ai appelé Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. Le logiciel libre peut-il résister à la colonisation technique et économique ? Alors on est à l'Open World Forum, qui est un salon du coup, qui accueille des entrepreneurs, des développeurs, des utilisateurs de logiciels libres, cible entre guillemets de notre association, vu que nous on s'adresse avant tout au grand public, à des gens qui utilisent les logiciels. Je pense qu'il y a des représentants, en tout cas de Google aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal vu qu'ils utilisent eux-mêmes massivement du logiciel libre. Le problème, c'est le côté hégémonique, voire, si j'ose le terme, impérialiste, qu'il peut y avoir derrière ces entreprises qui aujourd'hui deviennent des points de passage quasi obligés. Quand on va allumer un ordinateur ou allumer son smartphone, il devient aujourd'hui quasiment impossible d'éviter ces entreprises.
Alors Pierre-Yves Gosset, quelles sont les alternatives ?
Pour nous, il ne s'agit pas d'éliminer Google. Google, encore une fois, ce n'est pas l'ennemi en tant que tel, mais peut-être un faux ami dont demain on ne sait pas quelle sera sa volonté et ses objectifs. Aujourd'hui, Google propose des choses essentiellement gratuitement. Par contre, comme ce n'est pas à base de logiciels libres, et Google est devenu aujourd'hui tellement puissant, donc le chiffre d'affaires de Google dépasse les 80 milliards de dollars. Google est la deuxième capitalisation boursière mondiale, la première étant Apple, et ces entreprises ont le moyen de racheter quasiment des États. Et souhaitez pas se limiter au web. Google fait des Google Glass, donc des petites lunettes qui vont filmer tout ce que vous faites et qui vont vous assister dans votre vie de tous les jours. Mais Google est une entreprise américaine et elle est soumise au Patriot Act. Et en tant que telle, le gouvernement américain peut lui demander des données que Google est obligé de fournir. Donc si on laisse les Google Glass se répandre partout sur la planète, dans quelques années, on aura forcément des demandes du gouvernement américain à accéder à qui a croisé, qui est-ce que telle personne a croisé aujourd'hui dans la rue, est-ce qu'il est rentré dans telle pharmacie, qu'est-ce qu'il a acheté comme médicament, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment le monde vers lequel on va. Nous, informaticiens, on le sait, on s'en inquiète. La difficulté est de faire prendre conscience de ce fait-là au grand public. C'est entre autres pour ça qu'on a lancé cette campagne.
À bord des trains de sa filiale IDTGV, la SNCF teste les Google Glass afin de permettre aux agents d'optimiser les contrôles. Sur les Google Glass du contrôleur, une croix verte si le billet est valide et une croix rouge s'il y a un problème.
Monsieur Tristan Nito.
Qui utilise Gmail dans la salle ? Levez la main. C'est donc une catastrophe officiellement, je vous remercie.
Alors on est à l'Open World Forum. Alors vous êtes, disons, le représentant de Mozilla ici, hein, de Mozilla, de la fondation Mozilla. Alors vous avez pris la parole, Tristan Eto, pour l'ouverture du forum. Alors pourquoi c'est si catastrophique d'utiliser Gmail ?
J'ai fait juste un rapide sondage en demandant aux gens de lever la main. Qui utilise Gmail ? Et c'est vrai qu'une majorité de mains se sont levées. Google a fait un outil qui s'appelle Gmail, qui est gratuit, et les gens l'ont adopté massivement. Et on se retrouve en fait dans un cas très particulier qui est que l'email qui était décentralisé se retrouve centralisé alors que c'était pas fait pour ça, avec un souci majeur qui est que, on le sait, hein, c'est le business model de Google et ça n'est pas condamnable en soi, c'est de tout savoir sur vous, tout savoir de vos envies, ce qui vous préoccupe, ce que vous recherchez, avec qui vous parlez, de quoi vous parlez. Ils lisent vos mails, ils les analysent, y compris les pièces jointes, sachant tout sur vous pour vous donner de la publicité ciblée qui correspond à vos besoins. Il y a 18 mois, un certain Edward Snowden, contractuel de la NSA, les grandes oreilles de l'administration américaine, a révélé en fait qu'ils avaient des portes d'accès vers les principaux grands acteurs de l'Internet pour pouvoir espionner tous les citoyens du monde entier pour des tas de raisons qui ne sont pas compatibles avec la démocratie, tout simplement.
Alors Pierre-Yves Gosset, qu'est-ce que vous proposez alors avec Framasoft ?
Alors, on prend chaque service qui existe aujourd'hui au niveau de Google, Facebook et autres, et on va essayer de montrer que pour chacun de ces services, il y a des alternatives en logiciel libre qui existent pour sortir du système Google, qui est évidemment extrêmement confortable, mais qui reste une cage dorée. Et aujourd'hui, les capitaux, la capitalisation boursière de Google, ou on pourrait citer Apple aussi, leur permettent d'investir des champs et des domaines d'activité qui sont toujours plus ou moins en liaison avec le numérique, mais qui commencent doucement mais sûrement à en sortir. Par exemple, Google rachète massivement dans la robotique. Google a une société qui s'appelle Calico qui vise à euthanasier la mort, donc qui s'intéresse de très près au domaine de la santé.
Et euthanasier la mort.
Euthanasier la mort.
C'est du transhumanisme.
Exactement. Et donc, le point de vue du transhumaniste est assez clair, c'est de dire l'homme est bridé par la biologie. Et il faut que la technologie puisse aider l'homme à aller plus loin et à se réaliser. Donc on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, ce serait de dire que la technologie nous assiste et que Google, demain, nous aidera à vivre mieux et plus longtemps. Aujourd'hui, ça, c'est la volonté de Google, mais on ne sait pas quelle sera la volonté des actionnaires de Google dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et nous, qui sommes dans le milieu, malheureusement, on voit le verre peut-être à moitié vide, c'est que Google devienne tellement tentaculaire qu'on ne se pose plus des questions éthiques ou sociétales que pose un acteur d'une taille qui est quasiment, encore une fois, celle d'un État.
Google nous connaîtra mieux que notre partenaire sexuel et probablement mieux que nous-mêmes nous connaissons. Ce qui se rapproche aussi un peu du hacking cérébral, c'est la robotique. Nous allons avoir de plus en plus de robots. Vous savez bien que Google est devenu le leader mondial de la robotique, a racheté les...
Et oui, Google aussi a quelques velléités transhumanistes. Et au-delà de centraliser nos données et les monnayer autant que possible, c'est à nos cerveaux et à notre ADN que Google s'intéresse désormais.
mais nous irons bientôt dans la Mecque des transhumanistes dans la Silicon Valley avec Give.
Radio, hit yourself. Remixez-le, vous le.
Sur France Inter.
Le coin des bidouilleurs, Radio Hit Yourself.
Mixez-le vous-même.
Remixez-le vous-le.
Comme un bruit lance en ligne sa zone de bidouillage sonore et numérique.
Remixez-le vous-le.
Le Radio Hit Yourself de Comme un bruit qui ouvre aux auditeurs sa boîte à outils radiophoniques.
Ou comment vous tous, auditeurs bidouilleurs de son, êtes invités à télécharger des éléments sonores de l'émission via notre site sur franceinter.fr.
A vous de les approprier, de vous les remixer à votre manière et de les remettre en ligne via le site de l'émission, toujours franceinter.fr.
Vous êtes libre, à vous de nous en mettre plein les oreilles, des formats de 45 secondes à 2 minutes 30.
C'est donc toute une sélection de sons utilisés pour la réalisation de l'émission qui sont à retrouver en ligne dès aujourd'hui.
Ambiance, virgule, accroche, extrait de reportage, habillage qui seront enrichis tout au long de la semaine avec des nouvelles pépites sonores.
Tout un univers sonore en pièces détachées, à vous, auditeurs, remixeurs, de piocher dans cette boîte à sons.
De les transformer et agencer selon votre inspiration avec vos propres moyens, du high-tech holocauste.
Holotech et Radio Hit Yourself, on vous dit. À vous de jouer, vos créations sonores les plus originales deviendront radiophoniques à partir du 15 novembre prochain.
Comme un bruit qui court, réalisé aujourd'hui par Jérôme Chélius, assisté de Karen Day à la technique, aujourd'hui Kevin Pellot, Julien Chabassu, Ludovic Asselot et David Federman.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site franceinter.fr pour les références. Laissez vos commentaires et testez le Radio Hit Yourself.